Les experts avec les conseillers Aurélie. Accompagnement gratuit dans vos projets de travaux de rénovation énergétique. Plus d'infos sur aue.coursiga.
RCFM, les experts, Marie Bronzy.
Et ce matin dans les experts, nous recevons Nathalie Roudil-Rébillou. Nous allons parler d'hypnose. Elle a deux cabinets de consultation du côté d'Ajaccio sur la route des Sanguinaires et en face du collège et lycée Saint-Paul. Elle propose des ateliers tout public et des masterclass pour les professionnels au sein de l'Institut Noésis. Il y a d'ailleurs un site internet, il suffit de taper Institut Noésis dans un moteur de recherche et vous tombez sur toute l'actualité de Nathalie. Et bonjour, cela fait longtemps qu'on ne vous entend pas. Soyez la bienvenue, Nathalie.
Bonjour Marie et merci pour votre accueil à nouveau.
Ah, c'est toujours un plaisir de vous accueillir et de parler d'hypnose. Alors là, vous m'avez mis un petit piège ce matin. Vous me parlez d'idéomoteur. Je laisse ce mot en suspens pour les auditrices et les auditeurs. On en parlera dans un instant. Oui. Mais mettez-le dans un coin de votre tête, vous allez m'expliquer oui. De quoi il s'agit. Nous avions envie ce matin de parler évidemment toujours des grandes lignes de la stratégie de l'hypnose. Mais surtout, de l'entretien initial, du questionnaire qui a lieu avant une séance d'hypnose et qui est déjà de l'hypnose, c'est ce que vous nous dites souvent.
Effectivement. Alors, il est nécessaire et même essentiel de commencer par cet entretien initial. Regardant du côté de l'histoire et puis des histoires qui ont été racontées, bien évidemment, par exemple celle de tant de chercheurs qui ont d'abord, pour commencer, pris du temps pour chercher. Se sont quelquefois saturés, se sont quelquefois énervés, ont rencontré des paradoxes et difficilement, consciemment, avaient du mal à trouver des solutions à des questions qui jusque-là était introuvable pour eux. Ne serait-ce que Archimède, pensons à Archimède, qui ne trouvait pas certaines réponses, sachant que le roi Héron II, un tyran, lui avait dit « En gros, je vous couperai la tête si vous ne trouvez pas combien il y a de l'or dans la couronne sans la détruire. » Bien, là, il y a une vingtaine de minutes de questionnement importante sur la situation problématique, l'objectif, le projet que la personne souhaite mettre en œuvre. Grâce à ce questionnement pendant une vingtaine de minutes très précis, comme le font les chercheurs ou d'autres personnes, ou même nous-mêmes, quand nous cherchons un mot, on ne trouve pas. Et ensuite, que se passe-t-il? Au moment de l'hypnose, eh bien notre cerveau, en réseau cérébral par défaut, va poursuivre le travail. Vous cherchez un mot, vous ne trouvez pas un titre de livre, le nom d'une amie ou autre qui vous échappe et pourtant vous le connaissez très très bien. C'est au moment où on lâche prise, parce qu'on a vraiment cherché, que l'on trouve ensuite des processus, ou que l'on met en œuvre plutôt, des processus de solution, ou quelquefois même que l'on trouve des solutions.
Les personnes arrivent, en général elles sont assises au bureau du thérapeute. Est-ce que l'emplacement a une importance pour le questionnaire avant la mise en route de cette séance d'hypnose ?
Alors, non, pas vraiment un bureau entre deux, le thérapeute, surtout praticien, ouais. Qui va regarder et observer tous les comportements, les moindres gestes de la personne. On va en parler tout à l'heure, justement, les moindres gestes. Les mouvements du pied, mouvements de la main, mouvements de corps, on appelle ça la loi de la demi-seconde. C'est-à-dire, quand une personne parle, son corps s'exprime aussi.
Donc, il est important de pouvoir voir la personne dans son entièreté.
Oui, pendant tout l'entretien initial aussi. D'accord. Finalement, est déjà une première approche de l'hypnose, car il se passe beaucoup de choses dont la personne, quelquefois, même n'a pas conscience.
Est-ce que le praticien prend des notes lors de ce questionnaire ?
Alors, en ce qui me concerne, oui, certains non. Je préfère parce que ce que la personne, le patient, le client, ça dépend qui, si c'est un coach, il va dire le client, la personne qui s'adresse à nous, le consultant, en d'autres termes, eh bien, a ses propres termes, sa propre histoire, qui n'est pas la mienne. Donc, je dois m'adapter, je dois relever des termes. On ne peut pas dire être heureux et le bonheur, c'est différent pour certaines personnes. Si la personne me dit pour moi, j'ai besoin d'être plus heureuse ou plus heureux, je ne vais pas dire d'accord, pour vous, c'est une question de bonheur. Non, c'est être plus heureux, plus heureuse. Donc, je note des termes et bien évidemment des termes qui reviennent souvent, dont même la personne ne se rend pas compte.
Alors, il y a évidemment l'objet de la venue du consultant. Ça fait partie des premières questions de cet entretien. Et parfois, attention, le consultant va annoncer un objet. Tiens, je viens parce que je souhaite arrêter de fumer. Mais le thérapeute, le praticien, se rend compte au fil du questionnaire qu'il y a d'autres choses.
Bien sûr. Il y a une première demande et puis des demandes qui sont plus cachées. Donc, une personne vient pour l'arrêt du tabac. L'arrêt du tabac, en pensant quelquefois, comme on pourrait le faire croire dans quelquefois des promotions de l'hypnose un peu rapide, qu'en une seule séance ou seulement en faisant de l'hypnose, quelque chose peut advenir du côté de l'arrêt du tabac. Ce qui peut arriver. Toutefois, quand une personne vient pour l'arrêt du tabac, il y a toute une histoire derrière, quelquefois. Et puis, il y a du stress. Une personne me disait il y a quelques jours, ça me calme. Alors, ça me calme, c'est un bénéfice. On peut pas, ça me calme. Ou d'autres, une autre me disait, une dame, moi, j'ai pas envie de prendre du poids parce que ça me fait du bien, je compense, ça me fait du bien. Donc, ça me fait du bien, ça me calme. Il y a une question de stress, très certainement, derrière. Puis, une histoire. Une dame avocate, il y a très, très longtemps, elle avait décidé de commencer à fumer en 1968 contre l'avis de son père. C'était toute une histoire pour elle, c'était son identité. Donc, on ne peut pas arrêter le tabac juste en faisant fi de toute l'identité, toute l'histoire que cette personne s'est construite vis-à-vis de mai 68, son
bien
père,
sûr,
etc.
Bien sûr, et le féminisme et la libération de la femme. Comment on gère ce questionnaire? Est-ce que c'est le même selon les individus? Combien de temps dure-t-il? Est-ce qu'il y a un protocole un peu, voilà, un cadre un peu ferme?
Oui, lors des formations, on donne plusieurs questionnaires qui sont des questions qui passent par, dans un premier temps, l'étude de la situation problématique. Par exemple, quel est le problème? Que se passe-t-il actuellement? Quels sont les bénéfices? C'est pas simple. Quels sont les bénéfices que vous trouvez à maintenir cette situation-là? Il faut tranquilliser la personne quand on lui pose cette question-là, parce qu'elle pourrait dire souvent, au début, non, je n'ai aucun bénéfice. Mais il y a une raison, au moins une raison. Quelquefois même de bonnes raisons, comme être calme. Donc, il y aura toute une partie qui va poser des questions sur le problème, puis ensuite sur la faisabilité du projet, de l'objectif. Ça dépend aussi des personnes. Si c'est un sportif, c'est souvent l'objectif. Et cette une bonne série de questions qui va durer entre 20 et quelquefois 35 minutes, surtout les premières rencontres, quelquefois même plus. Toutefois, je n'abandonne jamais, ne serait-ce même que 10 minutes, la partie hypnose en fin d'entretien initial, si ça a duré même 40 minutes.
Il y a cet entretien donc qui peut durer, vous l'avez entendu, selon les individus, jusqu'à 40 minutes. Et ensuite, la partie hypnose. Vous l'avez dit en préambule, lorsque le consultant va rentrer en hypnose, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, il va y avoir des choses qui vont résonner, des mots, suite à cet entretien. Mais le thérapeute, lui, de quoi va-t-il se servir, le praticien? Est-ce qu'il va se servir de ce qu'il a entendu directement dans la première séance d'hypnose?
Toujours de bonnes questions, merci. Donc, il va s'en servir, mais de manière subliminale. C'est-à-dire que quand Archimède est allé prendre son bain, ou quand on cherche un mot et qu'on ne le trouve pas, que fait-on? On oublie, on s'arrête. On immobilise les processus de réflexion de la conscience. Donc, durant la partie hypnose, c'est vraiment c'est une deuxième manière de travailler. Il y a d'abord la partie consciente avec des mots, effectivement, des phrases qui ressortent et qui sont nécessaires, mais qui seront ensuite à réentendre. Et c'est là où le technicien, je vais parler de technicien hypnothérapeute, va devoir utiliser ces mots-là de manière très subliminale, de manière métaphorique, et pas vraiment s'attarder. Autrement, il réveillera encore la conscience. Donc, il y a une deuxième partie qui va passer plutôt par l'imagination, la question du corps, du subliminal, du langage artistiquement vague. Si on va chez les chamans, ça sera le tam-tam. Bon, on ne va pas faire le tam-tam durant une séance. Dans tous les cas, quelque chose qui va permettre que la personne s'endorme ou se repose ou rêve, les deux, les trois, dans tous les cas, laisse une partie de son esprit poursuivre un travail différemment que ce qui a été fait lors de la première partie.
Oui, mais alors on entend ouverture, ouverture, alors je sais pas, de fenêtres, de portes, et là j'ai peur, ouverture des vannes. Est-ce que, est-ce que l'hypnothérapeute a une responsabilité? Est-ce qu'après une séance, on peut être, je sais pas, plus mélancolique, plus triste? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent à la surface de façon un peu violente?
Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Toutefois, il y a ce qu'on peut appeler ce que la programmation neurolinguistique a amené comme technique ou comme terme à l'hypnose, qui seront les fusibles ou toutefois les précautions à prendre.
D'accord.
Et puis quand quelqu'un, bien sûr le praticien regarde, observe la personne, si une personne a le souffle coupé ou ne se sent pas très très bien, on arrête la séance, on a même déjà prévu d'arrêter la séance et de poser la question: avez-vous quelque chose à dire? Avez-vous un commentaire? Et on discute. Et là, on reprend du côté de la raison. Il y a la question de la raison et de l'émotion. Je demande quelquefois à la personne de faire parler la raison et de laisser pour l'instant l'émotion se reposer. Donc, on fait très très attention. Il n'est pas nécessaire de se retrouver dans des abréactions ou des crises, comme dans certaines thérapies. Non, tout au contraire, c'est de vivre agréablement et respectueusement un changement.
Vous nous rejoignez si vous avez des questions à propos de l'hypnose, des choses peut-être qui sont un petit peu coincées en vous, que vous aimeriez changer, bouger, et pourquoi pas passer par l'hypnose. En tout cas, vous pouvez toujours questionner Nathalie Rodil-Rébillou de l'Institut Noésis pour en savoir un peu plus. Ou vous-même, vous avez envie de devenir praticien, vous avez envie de devenir hypnothérapeute, ou même suivre des stages, hein, c'est ouvert à tous, pour en savoir un peu plus, parce que c'est un domaine qui vous intéresse et vous avez envie de l'explorer, n'hésitez pas à nous rejoindre, à poser vos questions au 04 95 32 22 22, mais également par écrit, via la messagerie de la page Facebook d'RCFM. Je me fais un plaisir de relayer vos questionnements.
Les experts, vos questions au 04 95 32 22 22.
Les longueurs, Pascal Obispo à l'instant sur RCFM à 9h et 25 minutes.
RCFM, les experts du lundi au vendredi.
Et nous sommes avec Nathalie Roudil-Rébillou qui est hypnothérapeute et nous parlons d'hypnose et de la séance d'hypnose, la façon dont elle se déroule avec un questionnaire très important au préalable suivi de la séance qui parfois peut durer 10 minutes comme nous l'a dit Nathalie. Mais est-ce que ce questionnaire, ce que j'évoquais en tout début d'émission, n'est pas déjà un petit peu de l'hypnose ?
Bien sûr, car il permet à la personne de, selon certaines questions, qui par exemple, comment allez, une question qui ressemble beaucoup, on va dire déjà à la pratique de l'hypnose, comment vous imaginez-vous quand vous irez mieux ? Entendez le mot imagination, déjà c'est un terme utilisé beaucoup du côté de l'hypnose ou de la visualisation. Et la personne quelquefois même ferme les yeux ou en tout cas va faire une forme d'introspection et de réfléchir. Il y a donc des questions qui sont déjà. Et puis l'hypnothérapeute, à partir du moment où il fait rentrer quelqu'un en cabinet ou alors il le reçoit en visio, car ça se fait beaucoup, dès les premières minutes, tout ce qui est dit, tout ce qui est mis en œuvre du côté de la conversation est déjà... on pourrait presque dire hypnogène, ou une forme d'hypnose conversationnelle.
Bien sûr.
Effectivement, on est très très attentif à l'art de la communication, à la manière dont on communique.
Nadia nous pose la question suivante. Je n'arrive pas... Non alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à résumer et à mettre mes mots. Or, je sais que pour Nathalie, c'est important d'avoir les mots de la personne. Donc Nathalie nous dit la chose suivante. Bonjour, je souhaite arrêter de fumer. Mais je n'y arrive pas car je suis très dépendante de la cigarette. Est-ce possible avec l'hypnose ? Et puis ensuite, elle nous demande où est votre cabinet. On va rappeler que vous êtes à Ajaccio, route des Sanguinaires, résidence Santaline, et également un cabinet en face du collège et du lycée Saint-Paul. Ça, c'est dit et vous la trouvez sur Internet, Institut Noésis. Mais voilà, je souhaite arrêter de fumer, mais je n'y arrive pas car je suis très dépendante de la cigarette. Est-ce possible avec l'hypnose ?
Alors, oui, c'est possible. Le mot possible est très très bien, bien évidemment. Quelquefois, les séances demandent de faire justement un travail plutôt profond. Comme j'ai dit tout à l'heure pour cette dame qui avait une soixantaine d'années et qui depuis 1968 s'était mise à fumer pour plein de bonnes raisons pour elle, qui étaient même nécessaires. Donc il y a un travail du côté du stress, du côté de l'histoire, du côté dans ce premier entretien initial. Puis, quand la personne, à mon avis, est suffisamment prête pour aborder l'hypnose. Car l'hypnose, on ne peut pas faire de l'hypnose si il y a un paradoxe qui coince, si la personne est figée dans quelque chose ou résiste. L'idée, c'est qu'à un moment donné, la personne va se dire « Oui, ce qui vient de se passer là, déjà, dans l'entretien initial, me permet ou mieux de comprendre, ou mieux d'appréhender, ou d'avoir repéré certaines choses que je n'avais pas repérées jusqu'ici. » Donc déjà, hein, il y a cette partie un peu secrète. Et bien évidemment, l'arrêt du tabac est très connu, hein, du côté des thérapies brèves, comportementales, cognitives, ou du côté de l'hypnose. C'est une très très bonne pratique, dirais-je.
Voilà, c'est une bonne pratique, parce que je sais que vous attendez souvent, hein, chères auditrices et chers auditeurs, je suis pareil que vous, des réponses pratico-pratiques, combien de temps, combien de séances, est-ce que c'est sûr que ça fonctionne, à combien de pourcents ? Donc non, il est difficile de répondre ainsi. En revanche, Nathalie vous l'a dit, c'est une bonne pratique.
Oui.
Franchement, qui a fait ses preuves pour l'arrêt du tabac, mais il y a plein de paramètres, vous l'avez entendu, qui entrent en jeu, et surtout le souhait, le désir. Et vous le dites, Nadia, je souhaite arrêter de fumer. Donc vous avez déjà enclenché quelque chose, alors pourquoi pas l'hypnose ? En effet, ça peut être... je dis ou pas, moi, que j'ai arrêté avec l'hypnose ? Oui, je peux le dire.
Bien sûr.
Voilà, moi, j'ai arrêté avec l'hypnose, ça fait bientôt 6 ans. Donc si vous enclenchez quelque chose, c'est tout à fait possible. Et je salue Erika qui doit nous écouter, bien sûr. Alors, autre question. Bonjour, j'ai une amie qui a la maladie de Charcot depuis 2 ans et qui est très angoissée. Cette thérapie pourrait-elle l'aider et être prise en charge par la Sécurité sociale, car elle a peu de moyens financiers ? Merci pour votre réponse.
Alors non, pour les hypnothérapeutes, même les médecins hypnothérapeutes, bien que quelquefois, ils font passer ça du côté, on va dire, de la partie médicale, donc cela peut être possible. La prise en charge par la Sécurité sociale, la plupart du temps, non. En revanche, par certaines mutuelles, oui. C'est pas si simple. Ensuite, on va dire, l'hypnothérapeute humain va considérer aussi, un peu comme les psychanalystes le font, va considérer aussi les moyens financiers que la personne a et puis faire en sorte de baisser quelquefois le tarif, bien évidemment, pour accompagner une personne en souffrance. Vis-à-vis de la maladie de Charcot, bien évidemment, l'hypnothérapeute ne peut pas guérir certaines maladies. Par contre, il peut accompagner une personne à vivre de manière moins stressée cette situation et même à s'apaiser. Et puis, on fabrique, alors là, je renvoie ceux qui aiment faire des recherches du côté de deux ouvrages. Le mystère de l'effet placebo, le mystère de l'effet nocebo. C'est de Patrick Lemaire, à Lyon. Et il y a de nombreuses émissions sur Internet où ce chercheur va parler de cette fabrication d'endomédicaments. Mais, dit-il, on ne sait pas où se trouve la gare de triage. C'est-à-dire que du côté du placebo ou de l'hypnose, ce n'est pas si simple. Alors, quelquefois, il y a des miracles. Mais bien évidemment, n'attendons pas le miracle. Attendons plutôt un apaisement, ce qui est déjà tout à fait possible dans des situations aussi difficiles que celles que vit cette dame-là.
Docteur en psychologie de l'Université de Bourgogne, Patrick Lemaire, que l'on trouve aujourd'hui à Lyon, c'est ça ?
Oui.
Bon. Et ces ouvrages sont intéressants et accessibles pour nous tous, oh, Nathalie, ou il faut quelques clés ?
Non, le mystère de l'effet placebo et le mystère de l'effet nocebo. Et puis aussi, si on n'a pas particulièrement envie de le lire tout de suite, sur YouTube, Internet, enfin les réseaux vidéo, on voit de nombreuses conférences où c'est très très pertinent. Et déjà, ça aide beaucoup de personnes à comprendre qu'on peut fabriquer du cortisol. C'est ce que j'ai fait moi, alors que j'avais beaucoup d'allergies à une époque, quand j'ai commencé il y a 25-30 ans. On fabrique de l'endorphine, on sait qu'on fabrique hein, des endomédicaments. Alors il explique les processus, c'est pas ce qui va nous permettre, d'une certaine manière, de trouver le moyen, car cette gare de triage est compliquée. Mais dans tous les cas, grâce à la pratique de l'hypnose et des thérapies brèves, il y a la possibilité, à un moment donné, effectivement, de réguler quelque chose et de trouver le moyen d'aller mieux.
Bien sûr. Alors l'effet nocebo, pour celles et ceux qui se questionnent, hein, comme un effet miroir à l'effet placebo, ce sont des effets psychologiques qui sont nuisibles. Hein, on peut dire ça, vite fait.
Exactement. C'est quand on lit les effets secondaires sur une liste de médicaments.
Et qu'on a tout d'un coup, on ressent tous les effets secondaires.
Et on le sait, on dit, il vaut mieux pas que je lise les effets secondaires de ce médicament, car je vais les subir, effectivement.
Alors, vous nous avez parlé, donc quand on a préparé l'émission, avec ce mot idéomoteur, je vous ai dit, Nathalie, gardez-le dans un coin de votre tête parce que vous allez m'en parler. De quoi s'agit-il ?
Oui. Justement, je me disais que ça pouvait être intéressant de parler aussi de quelque chose qui est assez rare du côté du monde de l'hypnose et qui est souvent une pratique. Ce sont les pratiques somatiques, des expériences somatiques. Bon, bien évidemment, on ne va pas faire tout ce qui se propose en expérience somatique, car il y a des spécialistes. Toutefois, quand tout à l'heure je disais, rappelons-nous, ou plutôt je rappellerai, la loi de la demi-seconde, il y a de nombreux gestes. Le corps parle. Le corps s'exprime. Alors, plutôt que d'être figé quelquefois dans une situation psychique, sachant qu'on parle de psychosomatique de toute façon, hein, que l'esprit a un impact sur le corps, comme le corps a un impact sur l'esprit, durant la partie hypnose ou même pendant l'entretien initial, on va d'abord observer tous les gestes, tous les mouvements de la personne. Et durant la partie hypnose, on va lui proposer de faire des choses qui sont assez incroyables, qui sont passionnantes même.
Par exemple,
l'a proposé, la lévitation de main. Alors attention, le mot léviter pourrait impressionner certaines personnes. C'est-à-dire qu'on va proposer au corps de parler, au corps de s'exprimer, au corps de laisser cette main se lever pour libérer quelque chose. C'est plus la parole qui va trouver les moyens, parce que la parole, elle est quelquefois cristallisée, et elle est gelée même. Eh bien, et elle a gelé le corps. Donc, comme le corps a été gelé, la parole aussi, on va dégeler, j'exprime un terme qui s'utilise en expérience somatique, on va permettre de dégeler, de décristalliser quelque chose grâce au mouvement idéomoteur, une idée une idée de l'inconscient presque, va entraîner un mouvement spontané, étonnant. La méthode de Rossi, les deux mains qui se rapprochent, la personne n'y prête même pas attention.
Bien sûr.
Elle est même étonnée, elle est surprise. Alors, il y a des personnes qui se mettaient quelquefois à pleurer presque de joie ou autre. Leur corps a pris en charge la guérison, entre guillemets. Je mets la oui. mot guérison, entre guillemets.
Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que moi, j'ai la caméra, j'ai l'image.
Ah oui.
Je la vois, Nathalie, faire les gestes. Et là, je comprends, en regardant sa gestuelle, donc on parlait d'idéomoteur, qu'elle est en mode pédagogue, formatrice, hein, parce que c'est aussi son métier, et qu'elle nous explique avec beaucoup de passion comment ça fonctionne. Alors attention, ça marche même lorsqu'on discute avec un individu, on peut être un peu attentif à sa gestuelle. Hein.
Oh oui, c'est très très intéressant.
Il y a des choses toutes simples, hein, on croise les bras, par exemple, on se doute que notre interlocuteur, lorsqu'il croise les bras, bon, il n'est pas hyper ouvert à ce qu'on est en train de dire.
C'est pas simple pour lui, oui. ou ça lui rappelle quelque chose, oui. ou bien des fois, bon, il y a des personnes qui sont un peu en surpoids et qui aiment bien poser leurs mains sur leurs bras, parce que c'est la position la plus agréable.
La plus confortable, tout simplement.
Ou ouais. qui a un peu mal au ventre ouais. aussi. Effectivement, nous observons, quand on parle à quelqu'un et puis que la personne se recule, bon, c'est qu'il se passe quelque chose pour elle de difficile,
bien
ou
sûr.
Elle a besoin de partir. Je conseillais un ami qui a pas fait cette pratique-là, il s'arrête dans le couloir et il dit, je vais être bref. Il jamais bref, jamais, jamais. Et commence par dire, je vais être bref. Et puis la personne fait mine de partir, se tourne et il ne le voit pas. Alors je lui expliquais ces quelques bases de voir que quand une personne se tourne et s'apprête à partir, de manière poliment, ça veut dire j'ai besoin de partir. Donc nos gestes parlent. Ils parlent consciemment et aussi inconsciemment. Et c'est là qui va être, on va dire, ça va être le cœur. De plus en plus, je l'utilise de plus en plus, le cœur de notre pratique, ou de ma pratique en tout cas.
César nous dit la chose suivante, j'ai tendance à beaucoup parler, à avoir une logorée importante, je me rends bien compte qu'au bout d'un moment, mon entourage ne m'écoute plus, et c'est pire encore, je continue et continue encore à parler, que faire ?
Alors, César a besoin de parler, déjà, il faut considérer qu'il en a besoin, il faut considérer pourquoi. Donc il remarque effectivement que son entourage est fatigué de l'entendre parler, et cette logorée, comme il dit, peut être fatigante pour les autres. C'est d'abord de travailler, lui, sur ses besoins, ses nécessités, et pourquoi, le mot pourquoi, moi je le pose assez souvent, pourquoi il en est là, pourquoi il en a besoin, pour ensuite pouvoir s'apaiser. Et passer par exemple par l'écoute. Mais c'est pas simple là aussi. C'est d'abord de comprendre et de travailler sur les raisons et les bénéfices qu'il a malgré lui, puisqu'il y a une partie de lui-même. On va parler presque d'akrasie en grec. Hein. C'est qu'on sait ce qu'on ne doit pas faire, mais on le fait quand même.
Aïe, ouais.
Eh oui.
Ça, c'est terrible. Moi, j'ai l'impression pourtant que c'est déjà un premier pas, si on sait.
Et non, pas tant que ça.
On sait
qu'il faut arrêter de fumer et on continue à fumer.
Ouais, d'accord.
Parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont en jeu.
D'accord. L'hypnose peut l'aider ? Peut aider César ?
Oui, l'hypnose, alors, c'est intéressant ce que vous dites à nouveau. C'est-à-dire que dans le mot hypnose, il faut comprendre qu'il y a et l'entretien initial, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion interne, externe presque consciente et interne inconsciente, pourrait-on dire, qui va permettre ensuite, dans ce doublon d'entretien initial et d'hypnose, eh bien, d'aller vers des réponses d'ouvertes, vous avez dit tout à l'heure, des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes, d'aller vers des réponses qui était jusqu'ici fermé. Donc, ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres, oui. De cette façon-là, on peut considérer que l'on peut accompagner quelqu'un dans toute situation psychologique, somatique, difficile.
Puis, petite réflexion aussi, César, ne dites pas tout. N'ayez pas l'impression qu'il faut tout dire. Laissez un peu de place à l'imagination de l'interlocuteur. C'est important qu'il y ait échange. Je sais que c'est difficile, mais peut-être se mettre ça en tête, parce que c'est compliqué. On a l'impression qu'on manque de temps pour tout dire. On en sait quelque chose en radio. mais vraiment, c'est vrai que se poser, et pourquoi pas des séances d'hypnose, ça peut être une bonne piste. Vous restez avec nous, chère Nathalie Roudy-Labillot, et merci à nos auditrices et nos auditeurs qui nous écrivent ce matin, mais qui ne nous parlent pas. Vous pouvez nous rejoindre aussi et nous parler au 04 95 32 22 22. Julie vous accueille au standard. Et alors, Nathalie et moi, nous sommes tellement contentes, vraiment, de vous avoir avec nous. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce temps de parole.
tailler, arroser, biner, greffer, planter. De la graine à la fleur et aux fruits, long et semé d'embûches et le chemin. Mais notre experte est là pour vous. Votre jardinière, Laetitia Agostini, tous les samedis de 9h à 10h, répond à vos questions. Que la main verte soit avec nous sur RCFM.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés ? Fatigue excessive ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
C'est moi.
Bonsoir chérie, t'as fait les courses pour le repas avec mes parents ?
Ouais, c'est tout bon.
T'as pensé à la banette ?
Oh chérie,
tu comptes pas recevoir mes parents à dîner sans un pain banette ? Tu sais déjà ce que mon père pense de toi.
Oui, j'y retourne.
Banette, c'est un pain frais savoureux pétri sur place par votre artisan boulanger. Parce qu'un bon repas mérite un pain banette.
Pour votre santé, bougez plus.
Saviez-vous qu'un Corse sur trois utilise un composteur pour trier ses déchets alimentaires ? C'est aujourd'hui la solution la plus simple et c'est bon pour la planète. Pas encore équipé ? Profitez des dernières distributions gratuites du Civadec pour récupérer le vôtre près de chez vous lors du compostage Injiru. Inscrivez-vous vite sur civadec.fr.
Civadec, femme perduma.
La Marignana a Galeria, la Osterigaccia a Lama, ECFM, Cunol, Sidera.
Favela, canal historique. On danse aux quatre coins de l'Afrique. Au son du Bastia tropical chic.
Je voulais l'aventure et l'horizon. Les poursuites en voiture pour les passeports. Assure-toi, j'ai changé le nom. Dans la jungle à compter mes dollars, j'ai le temps long. Je m'endors et revois ton visage, c'est une obsession.
Je rêve à de t'enlacer sur le quai du vieux port. T'entendre dire que tu m'aimes encore. Il n'y a que dans tes bras où je me sens chez moi. Bastia, moi je veux vivre sans aucun remords. M'offrir à toi pour que tu me dévores. Il n'y a que dans tes bras où je me sens chez moi.
Intérimaire dans la politique. Je fais des affaires et c'est pratique. J'ai ouvert un compte au Mozambique.
Mais chut, j'avance encore plus loin, je suis déter. Le Toyota blindé jusqu'à la frontière. Pas de stop au péage, j'ai les pneus qui grinchent. Sans qu'il est temps pour moi de quitter Port-au-Prince. Adieu Lomé, Bamako, le cœur. C'est avec toi que je reviens vivre sur mes terres. Je fais mon alliage.
Tu es mon mon messie, mon cœur, mon île au trésor. Je n'ai plus envie de ruer vers l'or. Il n'y a que dans tes bras où je me sens chez moi. Je rêve à Bastia de poser alors mes mains sur ton corps. Avec Saint-Jean au fond dans le décor. Il n'y a que dans tes bras où je me sens chez moi. Il n'y a que dans tes bras où
tropical chic avec Santine. Notre invitée ce matin, notre experte, c'est Nathalie Roudil-Ribillou qui est hypnothérapeute. L'Institut Noésis que vous trouvez sur Internet dans un moteur de recherche si vous voulez en savoir plus, notamment sur les stages tout public ou encore sur les masterclass pour les professionnels. On en parle une minute si vous le voulez bien, Nathalie, pour le calendrier à suivre.
Oui. Alors donc effectivement sur le site de l'Institut Noésis, il y a une partie, il y a un calendrier avec des propositions de formation en présentiel, aussi en distanciel, ce qui se demande le plus souvent car je travaille avec des personnes qui sont à l'étranger en ce moment au Canada, donc ils peuvent pas se déplacer facilement jusqu'à la Corse, ils aimeraient bien. Il neigeait, tiens, la dernière fois au Canada, je travaillais avec quelqu'un qui était sous la neige, enfin en tout cas au beau milieu de la neige. Donc formation présentielle, formation en distanciel pour les professionnels et non professionnels. Il y a une nouvelle formation qui va être proposée en présentiel, qui est justement en relation avec l'hypnose et l'expérience somatique. C'est-à-dire, quand quelqu'un, justement, je pensais à ce monsieur qui parlait tout à l'heure, qui disait « je parle trop presque », il y a la question du corps. Peut-être que la question de la place, dont nous avons parlé tout à l'heure hors antenne, il y a peut-être une question aussi de place et de place du corps qui est en jeu. Alors, c'est la parole qui va prendre de la place. Toutefois, il y a donc des nouveaux ateliers sur la question du corps qu'on appellera hypnobuto, c'est parce que c'est une expérience somatique fort intéressante, qui va permettre à la personne de se décristalliser, de se défiger grâce à certains mouvements qui ressemblent à ceux qu'ont proposé les grands hypnothérapeutes comme Milton Erickson. Mm-hmm. Et puis, d'autres formations pour les professionnels. Ce sont des formations pour ceux qui sont déjà dans le monde de l'accompagnement, comme par exemple travailler l'hypnose et la question de la dépression, l'hypnose et la question des traumatismes, l'hypnose et la question des dépendances, par module.
Alors, il y a aussi cette idée dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la gestuelle, la motricité, idéomoteur qui participe simultanément de la conscience et de la motricité qui concerne la représentation du mouvement avant son exécution. Ça, je pense que vous en parlez aussi oui, lors des stages et lors des masterclass, c'est très important. Attention aussi de ne pas trop interpréter, j'imagine que vous devez le dire tout le temps en stage et en masterclass. Attention, ne prenez pas pour argent qu'on certains éléments que nous étudions, que je vous expose. Il faut aussi avoir un peu de nez.
Et effectivement. Alors, c'est un réseau, c'est un faisceau de réseaux, de mouvements, un faisceau de réseaux de paroles, de gestes, de paraverbal. Et tout cela amène à des hypothèses de la part du praticien. Ces hypothèses-là, il va devoir les valider en questionnant.
Et oui.
Il ne peut pas avoir l'idée pour l'autre, parce que dans sa culture, parce que pour lui, c'est comme ça. Donc, c'est un faisceau de réseaux, un réseau de faisceaux, de gestes, de mouvements, et aussi de paraverbal. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, et ensemble, on le disait, quelqu'un qui croise les bras. Ça peut être oui, je me ferme ou j'ai besoin de me protéger. Ça peut être aussi je suis tranquille comme ça ou je me repose. Enfin, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, à plusieurs moments, quand la personne, si par exemple la personne ferme les bras, croise les bras, à des moments très, très précis, on le notera sur notre papier et notre carnet et puis on pourra après poser la question à la personne. Maïeutique. Alors, phénoménologie, c'est ce qui apparaît. Maïeutique, c'est ce qui permet à la personne d'exprimer ce qu'elle ressent en elle-même, par elle-même, pour elle-même. Et non pas le praticien qui va avoir une idée pour. Un praticien est sans idée presque. Hein. Je préfère dire cela qu'avoir des idées pour l'autre.
Est-ce qu'on peut exposer son hypothèse au consultant? Est-ce que ça peut faire partie aussi d'un travail, même si on se trompe?
Exactement. Et en tout temps, en précisant qu'on va réfléchir ensemble, on va mettre en place un processus de recherche. Ça a été fait, hein, les anthropologues ont pu le remarquer, dans les années 70, les désorceleurs faisaient 15-20 propositions pour mettre en place, on va dire, un processus de recherche qui, quelquefois, sort des habitudes de la personne. Alors, François Roustan le faisait beaucoup, Socrate aussi, puisque François Roustan a lu Socrate, ou enfin a lu, en tout cas, plutôt a lu Platon et d'autres encore qui parlaient de Socrate, c'est-à-dire presque y aller un petit peu trop même, faire des propositions qui sont même à l'encontre de la personne pour que la personne dise « non, ce n'est pas ça » et qu'enfin elle le dise, quelque chose qui la regarde un petit peu plus.
Et à haute voix aussi peut-être, hein. Voilà, qu'elle s'entende de le dire.
Qu'elle s'entende et qu'elle exprime, exactement.
Nathalie, merci une nouvelle fois d'être venue nous voir, de nous octroyer ce temps pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous remercient par écrit via la messagerie de la page Facebook d'RCFM. Et c'est à mon tour de les remercier pour leur écoute attentive et leur fidélité. Je vous souhaite une bonne journée, Nathalie. Merci.
Merci et merci à vous pour votre accueil. À très bientôt.
Au revoir.